Radio Okapi.
Une plénière est prévue mercredi à l'Assemblée nationale après une certaine période d'attente. Demain donc, il sera question de la mise en place de la commission paritaire majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein du bureau définitif et aussi l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le coût de la vie est devenu très compliqué pour beaucoup de ménages en RDC. À Kinshasa, ils sont nombreux, ces ménages, qui disent s'en sortir difficilement ou pas du tout. Les Kinois, surtout les Kinoises, mères de famille, se lamentent. Dans ce journal, un reportage de Babel Pongo. L'ingénieur Kaloumé Abedi est l'invité de ce journal. Il est le chargé d'études et planification à l'office de voirie et drainage de Kalemi. Avec Michel Kifindangoy, il revient sur les inondations dans les villes qui entourent le lac Tanganyika et propose le dragage de la rivière Lukuga comme solution idéale pour faire face à ces inondations. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu-Kabambi. Nous démarrons par la ville de Kinshasa. Installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plénière est enfin convoquée pour mercredi après une longue attente sans raison apparente. Cette plénière de demain aura deux points à l'ordre du jour. La mise en place de la commission paritaire majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein du bureau définitif et l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce qui vient calmer certains députés qui ont même initié une pétition contre le président du bureau provisoire, accusé d'avoir bloqué l'installation du bureau définitif. Michel Kifindangoy.
La nouvelle de la convocation d'une plénière demain mercredi satisfait quelques députés qui pensaient déjà à la destitution du président du bureau d'âge pour avoir bloqué pendant tous ces jours l'installation du bureau définitif. La secrétaire rapporteure du bureau provisoire encourage tous les députés à prendre part à cette plénière afin d'épuiser l'ordre du jour de cette session inaugurale. Percy Nzuzi Umba.
La plénière apportera sans doute réponse à toutes les questions qui sont restées pendantes. Premièrement, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, la mise en place de la commission paritaire majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein du bureau définitif.
Pour la secrétaire rapporteure, c'est au cours de cette plénière que sera adopté le calendrier de l'élection des membres du bureau définitif.
Nous avons entamé le processus de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qui est la dernière mission du bureau provisoire. On ne peut pas parler des élections sans calendrier. Nous aurons plénière ce mercredi du 7. Le calendrier sera connu incessamment.
Cette plénière permettra aussi au Parlement de valider les pouvoirs des députés ayant été déclarés élus ou réhabilités hier lundi par la Cour constitutionnelle.
Dans le Haut-Katanga, le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale change de main. Il sera désormais présidé par la députée Liliana Komba, accompagnée de deux nouveaux benjamins. Cette installation s'est faite en l'absence des anciens membres du bureau et des députés de l'opposition. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le président déchu séjourne à Kinshasa depuis hier lundi, Jean Gandou.
Convoquée par la responsable de l'administration de l'Assemblée provinciale, la plénière de ce jour, qui n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du nouveau bureau d'âge, n'a duré qu'une vingtaine de minutes. La responsable de l'administration étant empêchée, c'est le fonctionnaire le plus gradé de l'administration de l'Assemblée qui a présidé cette séance. D'après lui, après la déchéance du bureau d'âge, suite à une pétition initiée par les députés provinciaux, il était impérieux de faire avancer les choses, car l'élection du gouverneur et des sénateurs pointe à l'horizon. C'est ainsi que les députés les plus âgés, après celui qui venait d'être déchu, étant absent aussi, c'est la députée Liliane Komba, la plus âgée de ceux qui étaient dans la salle, a été choisie pour diriger le bureau d'âge, accompagnée des deux benjamins. Considérant que les deux premières missions assignées au bureau d'âge, notamment la validation des mandats des députés et l'élaboration du règlement intérieur, sont déjà réalisées, il ne reste que l'élection et l'installation du bureau définitif. C'est donc cette dernière mission qui fera l'objet de la prochaine plénière convoquée pour ce jeudi. À noter que les différentes voies menant au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, étaient barricadées par les éléments de la police qui filtraient tout passage. Seuls les députés provinciaux, les journalistes et les autorités ont eu accès dans la salle de plénière. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Kasaï central, la liste provisoire des candidats membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale a été publiée hier. Conformément au calendrier, l'élection est prévue le vendredi de cette semaine, alors que le bureau provisoire a réservé la journée de ce mardi au recours, retrait et substitutions éventuelles. Certains candidats ont été invalidés. François Kadima nous en parle.
Sur cette liste provisoire des candidats membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale publiée, l'on retrouve pour la présidence deux candidats, Bob Kayombo de l'APCF et Daniel Lukusa qui va dans la course comme indépendant. Deux également la vice-présidence, dont Papi Noël Kankou de l'UNC et Willy Wishie, également indépendant. Au poste de rapporteur, Benjamin Bambi de AAP. CPG et Anaclet Mouyaya indépendant. Pour ce poste, un collectif de journalistes dénonce la mise à l'écart d'un autre candidat rapporteur, Pierre Sossène Kambidi. Pour eux, cet ancien journaliste devenu député provincial qui a été mis à l'écart sans raison doit être remis dans la course pour le poste de rapporteur. Fabrice Mumba est porte-parole de ce collectif.
Cette invalidation de Pierre Sossène Kambidi est une pratique qui décourage les ambitions de certains de nos élus. Cette déclaration du collectif de journalistes est un SOS lancé au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kasaï central pour revoir sa décision qui frise la discrimination.
Pour le reste des postes, deux candidats dont l'un de l'UDPS lorgne la place de rapporteur adjoint et des autres visent la question. Mais l'on note qu'il n'y a aucune femme dans la course dans le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Le coût de la vie est devenu très compliqué pour beaucoup de ménages en RDC. À Kinshasa, ils sont nombreux, ces ménages, qui disent s'en sortir difficilement ou pas du tout. Il arrive à certains de se réveiller sans rien en main et rien comme provision dans la maison. Les Kinois, surtout les Kinoises mères de famille, se lamentent. Elles plaident pour une amélioration du social du Congolais. Suivez-les dans ce reportage de Babel Mpongo Massimango.
La vie est devenue très difficile, on ne s'en sort pas, on ne sait plus quoi faire. Ces phrases, on les entend à longueur de journée chez les communs des Quinois. Ces femmes rencontrées au marché ne font pas exception.
Nous souffrons. Mon mari a 300 000 francs de salaire. Le loyer est à 150 000 francs. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on a mangé du poulet. Moi-même, je vends au marché, mais les marchandises ne se coulent pas. Je vois de maman arriver avec 5 000 francs. Elles ne savent même pas par où commencer.
Dans certains ménages, on se réveille sans trop savoir où donner de la tête. Il y a des jours où il n'y a rien à manger et quand un cas de maladie s'ajoute, cela complique un peu plus l'équation, nous dit cette femme, mère de 6 enfants. Toutes ces femmes lancent un appel au gouvernement pour une amélioration du social de la population.
Rendons-nous au Congo central pour signaler des perturbations dans la desserte en eau potable depuis le week-end dernier à Matadi. Selon le directeur provincial de la Régie des eaux, cette situation est due à la panne dans un des deux groupes motopompes du captage au niveau de l'usine fleuve de Matadi. Théodore Kabeangandou indique que l'équipe de maintenance de la Régie des eaux travaille d'arrache-pied depuis la survenue de cette panne la nuit de vendredi à samedi 13 avril et que la situation reviendra à la normale ce mardi. Les propos de Théodore Kabeangandou, directeur provincial de la Régie des eaux Congo central, sont recueillis par Nana Plurich Mambou.
La volonté de la Régie des eaux pour offrir de l'eau est toujours là. L'équipe a travaillé jusqu'à 22 heures. Finalement, quand on a trouvé qu'il manquait une pièce, un joint qui faisait que l'eau coule, nous sommes dit, le joint, il faut l'acheter le matin. Et on a acheté ça ce matin, on est en train de travailler. Donc la volonté est là parce que nous vivons de la vente de l'eau. Donc nous assurons la population de Matadi que nous sommes à pied d'œuvre pour résoudre le problème. Nous avions le samedi informé la population qu'on va avoir des perturbations quand nous avons connu la panne. L'usine fleuve, le capteur doit fonctionner avec deux groupes motopompes pour envoyer l'eau à l'usine. Et l'usine, pour maintenant arriver à donner la distribution que nous avons habituellement là-bas, il faut qu'elle fonctionne avec trois groupes motopompes haute pression, vu le relief de Matadi. Maintenant qu'on a un seul groupe là-bas, le seul groupe-là envoie de l'eau, ça ne permet pas assez que le refoulement actionne trois groupes haute pression. C'est comme ça qu'on fonctionne parfois avec un groupe, parfois avec deux groupes. Alors, les gens qui sont dans la ville basse ici ne sentent pas tout cela. Même si vous arrivez même jusqu'au niveau de Kalanka, là, ils ne sentent pas. Ce sont plutôt ceux qui sont dans les collines, là. Ce sont ceux-là qui sont impactés parce qu'il faut une forte pression pour que l'eau arrive chez eux.
Après l'éboulement de terre qui a causé mort d'hommes et fait des disparus, samedi dernier à Dibaya-Loubwe, dans la province de Kwilu, Cette commune fait face à des difficultés pour la recherche des disparus. Des problèmes logistiques et financiers réduisent à néant les efforts des plongeurs pour retrouver ces disparus. C'est ce que déclare le bourgmestre de la commune rurale de Dibayaloué. Il en appelle à l'intervention du gouvernement central. Le point avec Irène Bouma.
Dans un entretien lundi, le bourgmestre de la commune rurale de Dibayaloué, située dans les territoires du Diofa, en province du Kwilu, a évoqué des difficultés d'ordre tant logistique que financier en ce qui concerne les recherches des corps des personnes disparues après cet éboulement de terre. Armand Iteraniam a parlé entre autres des manques de matériel pouvant permettre aux plongeurs de rester sous l'eau pendant un moment. Face à ces difficultés, le bilan de cette catastrophe naturelle est resté stationnaire. Depuis samedi, le jour du drame, a déclaré cette autorité qui précise que seuls 11 corps ont été repêchés le même jour, alors que plus de 50 personnes sont restées introuvables jusque-là. Préoccupé, Armand Iteramania sollicite l'intervention du gouvernement afin de permettre aux services de poursuivre les recherches. Rappelons qu'une embarcation avec des passagers à bord faisait ses manœuvres d'accostage sur la rivière Kasai à Dibayaloué, s'est engloutie sous l'eau à la suite d'un éboulement. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans le Tanganyika, trois enfants d'une même famille sont morts hier dans l'écroulement d'un mur de leur maison. Deux autres personnes, dont la mère de famille, sont blessées, rapportent des témoins. Le drame s'est produit au quartier Kataki 1, commune de Kalemi, dans la ville de Kalemi. Le président du mouvement citoyen Parlement Debout Sans Tabou dans le Tanganyika déplore ce drame et condamne les services de l'État qui, selon lui, assistent impuissants à des constructions anarchiques dans la ville de Kalemi. Nathan Mugisho est au micro de Paulin Munanga.
Vers 4h du matin, avec une pluie qui a frappé, le mur d'une maison s'est écroulé et voilà que dans cette maison, il y avait 4 enfants et leur mère, mais une famille au total de 6 enfants. Parmi les 4 enfants qui étaient dedans, 3 sont décédés à la suite de cet accident, de l'écroulement du mur. Et puis leur maman et la grande fille se sont blessées. Je les ai suivies même à l'hôpital militaire de la cité où elles sont toutes des internées. Et leur santé s'améliore bien. Cependant, nous sommes en train de condamner avec la toute dernière énergie le fait que les services d'urbanisme et d'autres services ne sont pas en train de contrôler les gens qui construisent. À Kalemi, on constate qu'il y a beaucoup de constructions anarchiques, des constructions qui ne respectent pas les normes. Et c'est sous les yeux impuissants de tous ces services étatiques qui devaient aider la population. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter le nombre de morts seulement parce que les constructions anarchiques sont en train de s'écrouler et ça ne permet pas aux gens de bien vivre.
Au Nord Kivu, une vive tension a régné ce matin dans certains quartiers de la ville de Beni où des jeunes gens encadrés par un mouvement de pression sont descendus dans certaines rues et avenues de la ville en érigeant des barricades. Ils disent protester contre la multiplication des attaques des rebelles des ADF dans la région de Beni. La police, qui à un moment a affirmé ne pas disposer de carburant ni d'engins motorisés pour faire respecter l'ordre public, a fini par intervenir dans certains coins de la ville pour rétablir l'ordre public. C'est un reportage de Marc Marouf Fimbo, rendu par Sadiki Aboubakar.
Boutiques, magasins, petits commerces sont restés fermés ce mardi matin à Beni. Au marché central de Kilokwa, les étalages étaient vides et toutes les boutiques également fermées. Des manifestants, à majorité des jeunes enfants habillés en uniforme scolaire, ont érigé des barricades dans plusieurs rues et avenues des communes de Bungulu et Mulekera. C'est le cas de quartier Ngongolio, Boutili et Makampagne. Dans certains coins de la ville, la police est intervenue pour rétablir l'ordre public. En revanche, dans la partie ouest de la ville, aucune présence des forces de l'ordre n'était visible. Des sources sécuritaires ont affirmé que la police n'est disposée ni des véhicules, ni des carburants pour être sur le terrain et faire face à la situation sécuritaire dans la ville. Rappelons que lundi, des groupes de pression et des mouvements dits citoyens de Beni ont appelé à 2 journées ville morte. C'est pour, disent-ils, protester contre la multiplication des attaques des rebelles des ADF dans les quartiers Sayo, Kasangatuha et la commune rurale de Mangina. Ce midi, le calme est revenu dans la ville où la circulation et les activités socio-économiques ont repris. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Des nouvelles de ligne de front à présent. D'intenses combats opposent depuis tôt ce mardi les rebelles du M23 à l'armée congolaise et ses alliés locaux et internationaux autour de Sake. C'est dans le territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues sur plusieurs collines surplombant Sake. Les combats dans cette zone s'intensifient depuis déjà 3 jours, indiquent ces sources. Bernard Danyangi.
C'est depuis 5 heures locales que des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la zone. Nos sources locales parlent notamment des axes Saki-Kiroche au sud-ouest, axe Rotoboko vers le nord et axe Kiuli-Kimoka en direction de Kichanga. Aucun bilan n'est disponible sur ces combats du fait que, selon nos sources, depuis ce mardi matin, aucun civil n'a accès à la zone de Saki. L'armée congolaise aurait même placé des barricades depuis Nzulo, entrée ouest de Goma jusqu'à Mubambiro, pour interdire tout accès dans cette zone de combat. Depuis 3 jours, des affrontements opposent l'armée congolaise et ses alliés des groupes armés locaux dans cette zone du territoire de Masisi. Hier lundi, les accrochages se concentraient sur les collines de Ndumba et Kiluku, près des notabilités Kituva, Mahoma et village Chacha. Pendant ce temps, depuis la colline Vunano, les rebelles du 1-23 ont largué, dans la journée d'hier, plusieurs mortiers qui sont tombés sur les localités de Bweremana, dans le sud de Masisi, et celle de Minova, en territoire voisin de Calais au sud Kivu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le procès historique de Donald Trump sur des paiements visant à acheter le silence de l'ancienne star de la pornographie Stormy Daniels sur leur liaison en 2006 a débuté hier au tribunal pénal de Manhattan à New York. Le procès s'ouvre en pleine campagne présidentielle aux États-Unis alors que Trump se présente comme candidat pour le parti républicain.
L'invité.
Radio Okapi reçoit dans ce journal l'ingénieur Kaloumé Abedi, chargé d'études et planification à l'Office de voirie et drainage de Kalemie. Dans cet entretien avec Michel Kifindangoy, notre invité revient sur les inondations dans les villes qui entourent le lac Tanganyika. Il propose le dragage de la rivière Lukuga comme solution idéale pour faire face à ces inondations. Suivez.
Ingénieur Kaloumé Abedi, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Kifinda.
Vous êtes chargé d'études à l'Office de voirie et drainage Tanganyika. Quel état des lieux faites-vous des inondations déplorées dans la ville de Kalemie?
Monsieur Michel, vous savez que beaucoup de villes de pays des Grands Lacs sont victimes depuis très longtemps des montées d'eau du lac Tanganyika. Et la ville de Kalemie n'est pas épargnée. Étant donné que les infrastructures modernes de la ville de Kalemie ont été construites sur les littorales du lac Tanganyika, vu que la ville ne regorge pas autant des routes secondaires modernes, l'unique route principale moderne que la ville détient, que je cite le boulevard Lumumba, est aujourd'hui à 60% menacée par cette avancée du lac Tanganyika. Et une bonne partie de sa couche d'éroulement est endommagée. Aujourd'hui, pour arriver au bureau du gouvernorat provincial, de l'aéroport de Kainda via le boulevard Lumumba est devenu impossible. Il faut emprunter une route tertiaire qui n'a qu'une emprise de 4 mètres. À ce qui concerne les infrastructures écolières, aujourd'hui nous comptons 5 écoles détruites par cette montée d'eau du lac Tanganyika. Le beau quartier de la ville appelé communément quartier d'Ave est en train de partir, d'où nous enregistrons aujourd'hui plus de 1500 maisons englouties par cette avancée du lac.
Cette situation ne concerne pas seulement la ville de Kalemie, mais aussi les territoires de Moba, Uvira dans le sud Kivu, ainsi que les villes de Bujumbura au Burundi, Kigoma et plusieurs autres localités de la Tanzanie, ainsi que Mpulungu en Zambie. Dites-nous, qu'est-ce qui explique cette montée exagérée des eaux du lac Tanganyika?
Effectivement, monsieur Michel, cette situation concerne les 4 pays qui entoure le lac Tanganyika, que je cite, la République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Ces villes qui entourent le lac Tanganyika sont en général construites sur le flanc de montagne, d'où 50% de ces constructions sont anarchiques. Et lorsqu'il pleut, nous assistons à un charriage gigantesque de sable vers les lacs. Avec ces changements climatiques que le monde est victime, notre continent n'est pas épargné. Depuis quelques années, nous enregistrons des grandes quantités d'eau versées dans le lac Tanganyika, via précisément ses alimentes. Vu que le lac Tanganyika n'a qu'un seul déversoir, qui est la rivière Lukuga, qui n'est pas aussi épargnée par cet ensablement. D'où, à son tour, elle ne sait pas bien évacuer l'eau du lac vers le fleuve Congo. Vous allez comprendre avec moi, partant de la théorie de vase communicant. Lorsque l'eau du lac n'est pas bien évacuée par son déversoir, elle cherche à se déverser à un point bas, qui est le continent, le ville qui l'entoure.
Y a-t-il une solution envisageable pour arriver à gérer ces eaux et épargner les infrastructures de ces différentes villes de la région?
La seule solution envisageable aujourd'hui est le dragage de la rivière Lukuga.
Que vous faut-il exactement pour procéder au dragage de la rivière Lukuga et épargner ainsi les villes et territoires qui entourent les lacs Tanganyika de cette catastrophe?
Le dragage de la rivière Lukuga n'est pas une mince affaire. Tout en connaissant le prix d'une drague appropriée, en tenant compte de la longueur de la rivière Lukuga, qui est de 350 km, avec un bassin de 270 900 km², ce n'est pas moindre. À ce qui concerne la prise en charge du projet, soit le montage financier, cela revient à l'autorité provinciale. Mais normalement, les dragages de la rivière Lukuga concernent tous les pays du Grand Lac.
Ingénieur Kaloumé Abedi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Michel Kifinda.
Et c'est la fin de ce journal, la grande édition de la mi-journée sur Radio Kapi. Moi, Noëlla Luzitu Kabambi, j'étais à la présentation de ce journal et des autres éditions d'information depuis 5 heures ce matin. La mise en onde a été assurée par Mimi Kindou, un journal coordonné par Élisée Chikota. Restez à l'écoute des programmes de Radio Kapi, le média de la paix.